Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver. Ça fait pas si longtemps, après tout, qu'on s'est vu. Hein, ça... Je suis un abonné maintenant. Hein. Bien. Donc c'est une joie de vous retrouver. Alors il y a déjà, je me dis, j'aurais peut-être dû venir la semaine prochaine, parce qu'il y a les gâteaux de Lisa, voilà. Donc là, on rate les gâteaux de Lisa. Ça, c'est un problème. Faut qu'on revienne. Bon, je sais pas. On verra si on peut revenir. Mais bon, c'est super. Il y a toujours quelque chose de formidable à partager. Donc il y a deux semaines de cela, on avait déjà parlé du désert. Vous vous rappelez? On avait parlé de la voix qui criait dans le désert, de cette voix qui nous appelait à faire un certain nombre de choses. Alors peut-être que je préfère une petite interrogation écrite à ceux qui étaient là. Non, tu t'en rappelles là? Non, pas trop. Hein. Donc on avait dit qu'il fallait préparer la venue du Seigneur. Bon, ça s'appliquait au temps de Jésus, mais aussi pour nous, pour que Dieu travaille nos cœurs, rehausser nos vallées, aplanisser les collines. Enfin, on avait vu tout ça. Et puis aujourd'hui, bon, on est toujours dans le désert. Apparemment, le désert est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la Bible. Bon, je n'ai pas compté le nombre de fois où on retrouve ce mot, mais bon, peu importe, mais on le retrouve... bien des fois. Donc là, c'est bien sûr un épisode différent, un épisode du peuple d'Israël que l'on connaît assez bien quand même. Je pense que vous connaissez cette période de la vie du peuple d'Israël. Alors il aurait fallu certainement lire beaucoup plus pour bien s'imprégner du contexte. Le contexte, bien que très compliqué, si on veut le résumer très simplement, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Donc en relisant bien les textes, j'ai vu qu'ils avaient passé quand même 430 ans en Égypte. C'est pas rien, 430 années à vivre en Égypte. Alors au début ça s'était bien passé, puis après ça s'est dégradé. Et au final, ils étaient devenus des esclaves. Des esclaves pour bâtir les cités du Pharaon. On connaît tous, on a tous en mémoire un film, on voit le pharaon qui bâtit sa ville, etc. Et on voit les esclaves qui travaillent. Donc le peuple d'Israël était réduit à l'esclavage. Un esclavage assez dur, ils travaillaient quasiment tous les jours, dans des conditions difficiles. Et on voit même qu'à la fin de ce séjour, suite à l'intervention de Moïse, eh bien leur condition s'est encore endurcie. Il fallait qu'ils aillent chercher de la paille. Enfin, tout ça, c'est du détail technique qui nous est donné dans la Bible. Mais non seulement ils fabriquaient des briques, mais il fallait qu'ils aillent chercher la paille. Enfin, vous retrouverez tous ces détails dans la Bible. Donc, leurs conditions n'étaient pas faciles. Mais pourtant, Dieu va se préoccuper de leur sort et il va susciter un de ses serviteurs, Moïse, pour les faire sortir de ce pays, de cet esclavage. Et là, on voit la suite. La suite, vous connaissez tous, eh bien, ces événements de les plaies d'Égypte, tout ce qui s'est passé pour que le peuple d'Israël sorte, bien des événements miraculeux, dramatiques pour les Égyptiens, parce que j'aurais pas voulu être à leur place, très honnêtement. C'est vrai que les Israélites ont été un petit peu épargnés. Il nous est dit que cette province de Goshen où ils habitaient n'ont pas vu toutes ces plaies. Et puis après, donc, Moïse a pu enfin sortir avec cette population. La Bible nous rappelle qu'il y avait 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, plus aussi des populations qui avaient profité de l'occasion pour sortir de ce pays, de ce pays parce que bon, ils n'étaient pas en situation très claire, donc ils ont profité. Et il y avait aussi les troupeaux, beaucoup d'animation. Donc quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque, la sortie du peuple d'Israël de ce pays d'Égypte. Et déjà là, on pourrait faire un petit arrêt sur l'image et se dire, bon, ça, bien sûr, ce sont des événements qui ont passé, on dit merci Seigneur pour le peuple d'Israël, pour ce qui s'est passé, mais on peut faire un parallèle. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, beaucoup de commentateurs sont d'accord là-dessus. On pourrait faire un rapide parallèle avec notre situation à nous, qui vivions dans ce monde, parfois dans des situations difficiles, parfois même dans l'esclavage, non pas le même type d'esclavage, mais parfois certains étaient esclaves d'une passion qui est dévastatrice, souvent. On a eu un exemple la semaine dernière où notre ami nous a donné un témoignage dans ce sens-là. Et c'est quelque chose de terrible quand on vit des situations comme cela. Et le Seigneur nous invite, c'est vrai, par sa grâce, à sortir de cette situation. Comme le peuple d'Israël, eh bien, il nous invite à sortir. C'est plus Moïse qui va nous conduire, mais c'est le Seigneur qui va nous conduire dans une voie nouvelle. Il prépare pour nous des choses formidables. Et on peut s'intéresser à ce texte pour voir ce qui s'est passé après. Et là, on voit dans le premier texte qu'on a lu, le peuple, c'est vrai, est sorti dans des conditions miraculeuses. Les plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, on voit, fit partir Israël de la mer Rouge. Les flots qui s'ouvrent, quelque chose de formidable, quelque chose qu'on n'a jamais revu depuis. D'ailleurs, les hommes essayent d'expliquer par des... Ils disent, oui, c'est un phénomène naturel qui a dû se passer. Bon, on peut toujours donner, trouver toutes sortes d'explications, mais nous croyons qu'il y a vraiment eu, de la part de Dieu, un miracle extraordinaire pour extraire son peuple d'Israël, avec ensuite l'armée égyptienne qui essaye de poursuivre et qui est anéantie. Mais, à notre grande surprise, on voit que ce peuple, eh bien, s'engage dans le désert, s'engage dans une marche, et très rapidement, ils sont mécontents. On le voit là, bon, ils ont soif, ils sont assoiffés, quoi de plus normal d'être assoiffé. Mais bon, l'eau qui est là n'est pas potable, n'est pas buvable, c'est de l'eau amère. Et le peuple va murmurer, va critiquer. Alors ça peut être étonnant, après tout, de se dire, mais ce peuple qui vient de vivre des événements extraordinaires par rapport à leur ancienne condition, d'un seul coup il y a une libération, il y a une vision, puisque on doit les emmener vers un pays bien meilleur, eh bien ils ne sont pas contents. Alors en lisant ces livres, je me dis, mais après tout, ils sont pires que les Français. Les Français sont réputés pour être des râleurs, mais eux aussi, il n'y a pas que les Français qui sont des râleurs. Les Vietnamiens, je ne sais pas. Non, les Vietnamiens sont des gens extraordinaires, très gentils. C'est vrai, hein, Vienna, ils sont gentils, les Vietnamiens ? Tu n'as aucune idée. Tu ne te mouilles pas. Mais bon, mais c'est vrai qu'on se demande, mais alors pourquoi ont-ils eu cette réaction ? Et je me suis demandé, mais si on avait été à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Alors moi, je n'ai pas forcément de réponse. Mais au mieux, je me dis, on n'aurait peut-être pas fait mieux. On n'aurait peut-être pas été mieux qu'eux. Et ça m'appelle à m'interroger. Quand on est chrétien, quand on est dans une église, c'est vrai qu'on voit arriver de nouvelles personnes. Parfois, il peut y avoir bien du doute, des choses comme ça. Les gens se posent des questions. Et nous devons, nous qui avons un peu de recul, nous qui sommes déjà depuis peut-être quelques temps dans l'église, les accueillir. Parce qu'on va voir dans la suite que Dieu, malgré toutes ces révoltes, malgré tous ces murmures, eh bien Dieu les a pardonnés. Alors c'est vrai que c'est étonnant, alors on peut se dire aussi, peut-être qu'ils étaient habitués aux miracles. Ils avaient vu là, d'un seul coup, se réaliser quelques miracles étonnants. Les plaies d'Égypte, ils avaient dû entendre parler comment Dieu les avait délivrés. Ils avaient vu cette plaie terrible qui avait frappé les premiers-nés, et eux n'avaient pas été touchés. La traversée de la mer Rouge, quelque chose de formidable quand même, quelque chose... Eux, ils n'avaient pas le cinéma. Nous, maintenant, on est abreuvés avec un tas de trucs. On ne sait plus trop où est la réalité entre le vrai et le faux. Mais eux, bon, ils n'avaient pas toutes ces choses-là. Donc de voir des choses du physique, de la mer qui s'ouvre, certainement que ça a dû les toucher. La nuée qui conduisait le peuple pendant la journée, la colonne de feu le soir. Alors peut-être s'étaient-ils habitués au miracle. Ils se disaient, bah oui, maintenant, on va vivre dans le miracle permanent. Eh bien non. Non, pas de chance, le miracle, et je crois que ça c'est important aussi pour nous de réaliser ça. C'est vrai que lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous approchons de Dieu, et ça je le dis pour les jeunes là, qui nous écoutent, même si vous n'avez pas encore peut-être fait l'expérience, mais je vous invite à vraiment vous approcher de Dieu, il y aura des choses merveilleuses qui vont se passer. Parfois on entend des miracles extraordinaires, des hommes, des femmes, des jeunes qui sont délivrés d'une passion, de la drogue, de l'alcool, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va vivre tous les jours dans le miracle ? Non, je crois que quand on lit la Bible, quand on connaît la Bible, quand on fréquente une église, eh bien on s'aperçoit que le miracle, bien sûr, c'est un miracle, et ça doit rester quelque chose d'exceptionnel. Et le peuple, peut-être, n'était pas prêt à ça. Il avait besoin d'une formation. Et ce texte, ce premier texte, nous parle de la formation que ces gens, toute cette multitude, ils vont avoir besoin d'une formation. Et c'est vrai aussi pour nous, lorsque nous devenons chrétiens, nous avons besoin d'une formation. Ce n'est pas inné. On vient du dehors avec notre culture, avec nos connaissances. On peut avoir beaucoup de connaissances, on peut avoir fait de brillantes études, on peut avoir fait un doctorat par exemple, mais on peut aussi ne pas avoir fait d'études. Mais on a tous des connaissances, qu'elles soient des connaissances orales, transmises, ou des connaissances qu'on a acquises dans les facultés, dans les grandes écoles. On a tous des connaissances. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, on a besoin de nouvelles connaissances. On a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Et là, le Seigneur va permettre ce temps dans le désert. Un premier temps, je crois que cette période du désert, bien sûr, vous le savez, ça a duré 40 ans. Mais on peut diviser cette période de désert en deux périodes où il s'est passé dans chacune des périodes beaucoup de choses. Une première période où c'était une épreuve avec l'accord de Dieu, c'est-à-dire que Dieu voulait former son peuple, ils avaient besoin un petit peu de se reprendre. Eux qui avaient subi une oppression terrible, eux certainement qui étaient blessés au plus profond de leur chair, au plus profond de leur âme, ils avaient besoin de se reposer. Et bien sûr, le Seigneur Jésus nous le dit, celui qui s'approche de moi, il va connaître un nouveau joug, mais mon joug et mon fardeau sont légers. Donc, ils avaient besoin de se reposer, ils avaient besoin de reprendre des forces, ils avaient besoin de connaître quelque chose de nouveau. Et cette période de désert va être utile dans ce sens. Et là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec eux, comme le Seigneur Jésus le fait pour nous. Il va leur donner une alliance, c'est-à-dire qu'il va s'allier avec eux. Et c'est Moïse qui va monter sur le mont Sinaï pour concrétiser cette alliance et ensuite recevoir tous les commandements de Dieu. Et voilà le plan de Dieu tel qu'il était prévu initialement. Premièrement, une alliance et ensuite une formation, des lois qui vont régir la vie de ce peuple. Et lorsque nous nous approchons du Seigneur, c'est comme une nouvelle alliance, une alliance qui est encore meilleure que celle que ces gens ont vécue à cette époque-là. C'est ce qu'on appelle, nous, la nouvelle alliance que Dieu a scellée en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment Dieu veut former le peuple. Ce peuple qui, bien sûr, avaient une connaissance de Dieu. Ils vivaient en Égypte, mais ils avaient certainement une tradition orale. Ils connaissaient les choses de Dieu, ils connaissaient certainement les patriarches, Abraham et tout cela. Mais Dieu, là, veut aller plus loin. Il va leur donner un certain nombre de lois utiles pour leur vie de tous les jours. Et bon, j'ai listé là quelques lois. D'abord, il va leur apprendre que Dieu est un Dieu saint, une loi de sainteté. Dieu n'est pas comme ces dieux dont ils ont entendu parler, tous ces dieux qu'il y avait en Égypte, en Grèce, tous ces dieux qui étaient des dieux qui étaient comme les hommes, avec les mêmes travers que les hommes. Là, ils ont affaire à un Dieu qui est saint. Et Dieu va leur apprendre comment vivre. Il va leur apporter un tas de commandements nouveaux, des lois civiles, des lois sociales, des lois morales, des lois sanitaires, des lois judiciaires et pénales, toutes ces choses-là, Dieu va leur apprendre et que maintenant, ils vont devoir vivre avec ces choses-là. Des lois de sainteté, des lois agraires aussi, comment vivre, des lois qui permettaient à ce que personne ne manque de rien. Et quand on voit toutes ces choses-là, alors bien sûr, vous me direz, maintenant, il y a les lois de la République, nous sommes bien d'accord. Mais donc, Dieu va s'occuper de l'individu dans toute son entité. Il ne va pas non seulement s'occuper de la partie spirituelle, mais Dieu va s'intéresser à toute la personne humaine et s'intéresser à tous les aspects de leur vie, donc morale, sociale, hygiène, etc. Donc Dieu va leur donner des commandements. Et je crois que lorsque nous venons aussi, nous, à Dieu, lorsque nous nous tournons vers Dieu, Dieu veut que tout notre être entier, change. Avant, nous vivions dans ce monde, bien sûr, avec les lois de ce monde. Et lorsque nous approchons du Seigneur, et là, je veux marteler ça pour les plus jeunes, peut-être qu'ils n'avaient pas encore fait cette expérience, mais Dieu s'occupe, veut, se préoccupe de votre être entier, pas seulement le spirituel le dimanche, mais la vie de tous les jours. Et lorsqu'on se donne au Seigneur, c'est pas une partie que l'on donne, une toute petite partie, mais bien non, c'est tout notre être entier, parce que le Seigneur veut guider notre vie. Le Seigneur veut être notre guide dans tout ce qui régit notre vie. Donc c'est du 24 sur 24, on est bien d'accord. Chaque moment de notre vie, eh bien, ça intéresse Dieu. Bien sûr, ça peut interpeller le monde, si on dit ça dans la rue, les gens vont dire « Non, Dieu, notre vie, ça n'intéresse pas. » Eh bien, détrompez-vous. Le Seigneur, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël, il voulait que ce soit un peuple mis à part, un peuple témoin, un peuple qui marche dans ses commandements. Eh bien, de même, nous, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu veut nous mettre à l'écart, veut faire de nous un peuple à part. Bien sûr, nous vivons dans ce monde. Bien sûr, nous allons demain reprendre notre travail. Bien sûr, demain, nous allons aller dans notre école. Bien sûr, demain, nous allons vivre avec nos contemporains. Bien sûr, demain, nous partagerons des activités avec les gens de ce monde. Mais si nous voulons que les gens de ce monde, eh bien, soient interpellés, c'est pas seulement parce que nous allons à l'église le dimanche. Et je dirais, c'est même peut-être pas à cause de ce que nous allons à l'église le dimanche. Mais parce qu'ils vont voir dans notre vie quelque chose qui a changé. Et ce quelque chose, c'est parce que la vie, nous l'avons appris de la part du Seigneur, jour après jour. Alors bien sûr, cette marche dans le désert ne s'est pas faite comme ça en un jour. Si on lit bien la Bible, on voit que ça aurait pu être beaucoup plus rapide. En quelques 2-3 semaines, c'était réglé. Ils pouvaient aller au bord de la frontière du pays promis. Mais Dieu a choisi un premier temps pour les former. Déjà pour qu'ils se reposent, et après pour leur donner cette formation. Et nous aussi, nous avons besoin, eh bien, dans nos églises respectives, eh bien, d'écouter nos pasteurs, par exemple. Je vois le pasteur qui est au fond là-bas. Je ne sais pas s'il comprend tout ce que je dis, mais il faut écouter son pasteur. Le peuple se rebellait contre Moïse, mais bon, ça chagrinait Dieu, ça peinait le Seigneur. Et combien nous avons besoin d'écouter nos conducteurs, qui eux aussi sont des guides pour nous. Donc le peuple, eh bien, a reçu cette formation, comme nous aussi, nous recevons cette formation. Alors, nous l'avons pas lu, mais il y a eu des événements pendant cette période terrible. Rappelez-vous, pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, eh bien, le peuple s'est impatienté. C'est vrai que parfois on est impatient, on voudrait que ça aille plus vite, on s'attache à l'homme parfois. Et là, ils s'étaient attachés à Moïse, et là, ils ne le voyaient plus, ils étaient inquiets. Ils se sont dit entre eux, faisons un Dieu, faisons-nous un Dieu visible, comme on voit chez les Égyptiens. Et ils ont fait ce fameux veau d'or, on n'a pas lu ce texte, mais ils se sont créés quelque chose, une image, et là ça a été terrible. Et parfois nous voyons ça aussi parmi nos frères et sœurs, nos bien-aimés, certains qui préfèrent retourner en arrière, c'est terrible, mais ça existe. Alors, ce texte n'est pas fait pour juger ce qui s'est passé à cette époque-là, non plus pour juger nos frères ou nos sœurs qui reviennent en arrière. Au contraire, je crois que nous avons besoin de les aimer et si possible de les entourer. Bien sûr, parfois ils vont si loin, ils s'éloignent tant que c'est un peu difficile, mais tant qu'il est possible, comme on le voit dans ces passages, malgré cet égarement qu'ils ont eu pendant un temps, eh bien Dieu les a pardonnés. Et Dieu a recréé une nouvelle alliance. C'est quelque chose d'extraordinaire à noter. Bien sûr, le temps nous manque pour développer tous ces aspects, mais considérons la grâce de Dieu. Même si nous voyons certains de nos frères, de nos sœurs qui parfois s'éloignent pour retourner vers des choses terribles. Et là, je voudrais mettre un petit signal d'alarme. Attention, attention, quand vous retournez en arrière, c'est pas pour avancer, mais c'est pour tomber dans des trucs. Avec mon épouse, on a vu une amie chrétienne que nous avons suivie, que nous avons vue s'engager, le baptême, etc. Et puis là, quand nous la voyons évoluer, on se dit, mais comment c'est possible ça? Comment c'est possible de retomber dans des choses qui sont si loin de Dieu, si loin de ce que Dieu demande pour ses enfants? Alors bon, ça nous interpelle ces choses-là, bien sûr, parce que ça arrive. Et je crois que nous devons, nous qui sommes là, eh bien, rendre grâce à Dieu, dire merci Seigneur car tu me gardes, mais garde-moi encore demain. et après-demain et tout au long de ma vie. Merci pour la formation que tu me donnes, merci pour tout ce que tu m'enseignes, parce que j'ai besoin d'être à ton école. Et l'école de Dieu, c'est important, comme l'école de la République, bien sûr, il est toujours précieux d'apprendre des choses. Mais combien il est précieux d'apprendre de la part du Seigneur, combien il est précieux de s'imprégner de ses commandements, de ses lois, même si maintenant on n'appelle plus ça des lois, mais de sa grâce tout simplement. Alors les jeunes, bien sûr, vous qui avez tout un avenir devant vous, vous qui avez toute cette vie devant vous, eh bien il y a de la marche encore à faire. Là on a parlé des 40 années de marche dans le désert, et là c'est le second volet de mon message cet après-midi. C'est vrai que le peuple était arrivé à la frontière du pays promis. Il y avait une promesse extraordinaire pour eux, un pays merveilleux. Et je crois qu'aussi pour nous, c'est même pas je crois, j'en suis sûr, pour nous il y a une promesse aussi extraordinaire. C'est qu'un jour nous verrons le Seigneur, nous serons tous réunis, mais nous avons cette vie sur terre. Comme eux avaient cette promesse qu'un pays formidable les attendait. Mais là, malheureusement, il y a eu une rébellion, c'est-à-dire que vous connaissez l'histoire, ils sont aux portes à la frontière du pays, et là, ils ne savent pas trop, ils se disent, oh là là, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc ils envoient 10 personnes pour espionner le pays, Josué, Caleb et 8 autres. Ils passent un certain temps dans ce pays à explorer, et puis au bout d'un moment, ils reviennent. Josué et Caleb sont emballés, ils disent, oh, c'est un pays formidable, ils reviennent même avec un genre de grappe de raisin qui était énorme, une grappe qui était à peu près grande comme ça, quoi. Il fallait la porter à dos d'homme. Donc effectivement, c'était d'un point de vue un pays riche en agriculture, donc il faisait certainement bon vivre, un pays où coule le lait et le miel, comme dit la Bible. Et puis les autres personnes ont vu autre chose. C'est vrai que parfois on a une vision qui peut être troublée dans la vie. Avoir la bonne vision des choses lorsqu'un problème se présente. C'est vrai qu'il y avait des difficultés qui se présentaient, comme dans la vie de tout un chacun peuvent se dresser des difficultés. Et là, il y a eu une vision des deux, Caleb et Josué, et puis les 8 autres ont eu une autre vision. Ils ont dit, oh là-bas, il y a des gens, des géants, des types terribles, ils vont nous battre à plate couture. Mais ils avaient déjà oublié comment Dieu les avait sortis de ce pays. Et je crois que nous aussi, nous sommes parfois confrontés à des difficultés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne n'est pas une succession de miracles. Bien sûr, Dieu nous accompagne tous les jours. Dieu nous garde tous les jours. Et Dieu leur avait promis de combattre pour eux. Mais ils avaient aussi leur part à faire. Et je crois que ça, c'est important aussi d'intégrer cet après-midi. Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est clair que la mer Rouge, le peuple n'aurait jamais pu soulever les flots, ça c'est clair. Mais là, devant cette frontière, devant cette promesse, ils avaient à dire, Seigneur, tu vois ces gens qui sont là, peut-être hostiles, mais Seigneur, nous croyons que tu vas combattre pour nous. Et ça, malheureusement, nous ne sommes pas là pour les juger, parce que, encore une fois, peut-on se poser la question, qu'aurions-nous fait à leur place ? Peut-être pas mieux, peut-être pas mieux. Donc en toute humilité, nous devons lire ces textes et se dire merci Seigneur pour ces textes que tu nous donnes. Ça nous sert d'exemple. On voit les choses que tu fais, on voit le cœur de l'homme qui est invariable selon les époques. Bien sûr, beaucoup de choses changent, le contexte est différent, mais combien le cœur de l'homme est toujours le même et combien on peut revenir à ces vieux démons, le doute, le manque de confiance. Et face à ce manque de confiance, eh bien, Dieu leur a dit « Ok, on ne rentre pas dans le pays ». Alors bien sûr, certains ont voulu y aller quand même. Alors ils sont allés, la fleur au fusil, ils ont été là, anéantis. Mais bon, ça a été un exemple des choses à ne pas faire. Lorsqu'on n'a pas l'accord de Dieu pour faire des choses, eh bien, il faut s'en remettre au Seigneur. Et je crois que cet après-midi, c'est important pour nous aussi, dans nos vies, lorsqu'on a des choix importants à faire. Ça arrive, hein. C'est pas forcément d'aller battre des populations, je crois que c'est pas ça le sujet, mais là c'est un exemple. Quand on a des choix importants à faire dans nos vies, combien il est important de rechercher la volonté de Dieu, combien il est important de faire confiance à Dieu et d'être à l'écoute et aussi d'avoir la bonne vision. Les problèmes, il y en aura toujours. Les difficultés vont toujours se dresser. Mais allons-nous faire comme ce peuple d'Israël qui, finalement, eh bien, a tourné 40 ans en tout, donc y compris la première période, donc là c'était 38 ans et quelques. Donc à cause de leur refus, à cause de leur manque de foi, eh bien ils ont tourné, ils ont perdu du temps. Et je dirais malheureusement, ça se voit aussi parmi nos frères et sœurs parfois, qui se laissent emporter par tout un tas de choses, de doutes, d'idées préconçues, de choses qui les éloignent, ils tourneront, ils n'avancent pas. Vous savez, quand on tourne, on n'avance pas. Et là, ils ont tourné, ils ont passé. Bon, oui. Mais malgré tout, le Seigneur les a gardés. Si on voit la suite du texte, si tu peux le passer, on voit que malgré tout, eh bien Dieu les a mis à l'épreuve. Il a vu quelles étaient les dispositions de leur cœur. Il les a humiliés. Effectivement, parfois, c'est bon de passer par cette humiliation quand nous sommes un petit peu rebelles. Il nous fait souffrir. Mais il nous nourrit quand même, hein. Le Seigneur est bon, finalement. Si on va, pour ces quelques minutes qui nous restent, malgré ce comportement, bien sûr, la Bible est là pour nous mettre en garde, pour éviter de tomber dans ce travers-là. Mais bon, moi je vois bien comment les choses se passent. Et même, bon, je me le dis à moi-même, ça. Je crois que si nous faisions tous cet après-midi un petit examen pour nous-mêmes, nous dirons, oui, peut-être là... J'ai manqué de foi, j'ai manqué de conviction. Je crois que nous tous, nous avons besoin de reconnaître que parfois, nous avons eu besoin de nous humilier, nous avons eu besoin de souffrir. Mais le Seigneur nous apprend, il va nous nourrir quand même. Bien sûr, il nous apprend que l'on ne vit pas de pain seulement, mais que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est bonne pour nous. Tu peux suivre encore, je crois qu'il y a encore un... Et là, forcément, encore, il y a des choses formidables qui se sont passées. Là, c'était leurs vêtements. Alors, mesdemoiselles, mesdames, bon, peut-être que ça, aujourd'hui, ça ne vous plairait pas, parce que 40 ans avec la même jupe, la même robe, le même truc, là... Hein? Mais bon, gloire à Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait en son temps. Et je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est peut-être pas le vêtement qui va pas s'user, mais on pourrait parler en symbolique. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, il nous a revêtus d'un vêtement nouveau, d'un vêtement blanc. Et ce vêtement-là, eh bien, il ne s'use pas, quels que soient les problèmes que nous puissions traverser dans notre vie, quelles que soient les difficultés, parfois même terribles, eh bien, ce vêtement dont il nous a revêtus le jour où nous sommes venus à lui, eh bien, celui-ci ne s'use pas. Alors, ça vous laisse tout le libre choix après pour bien... Hein, Lisa, on est d'accord. Reconnais que ton cœur, que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. C'est vrai. Nous avons besoin, de temps en temps, d'être mis dans le droit chemin. Comme un homme châtie son enfant. C'est vrai que des fois, maintenant, on dit que c'est plus nécessaire, ça. Mais bon, moi, je préfère écouter encore ce que nous dit la Bible par rapport à ce qu'on peut entendre parfois. Alors mes jeunes frères et sœurs, mais les plus grands, je crois que cet après-midi, le Seigneur nous enseigne qu'il faut passer parfois par des moments un peu plus difficiles, qu'il y a de toute façon, lorsque l'on vient au Seigneur, un moment d'apprentissage, parfois c'est un moment de guérison pour quand on a vécu des choses terribles. Puis bon, c'est vrai que des fois on se convertit sans avoir vécu non plus de choses terribles, hein. Mais un moment de réflexion, de formation. Et parfois, quand notre cœur est un peu plus rebelle, eh bien le Seigneur, il nous remet un petit peu... il nous rappelle à l'ordre. Mais tout ça, c'est pour la gloire de son nom. Et le peuple est rentré dans le pays promis. Alors bien sûr, ceux qui avaient été les plus rebelles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a qui ne l'ont pas vu, ce pays-là. Mais nous, cet après-midi, nous avons une alliance. Le Seigneur a fait une alliance extraordinaire avec nous. Et si nous... croyant que le Seigneur est venu pour nous, qu'il est mort pour nous, qu'il a donné sa vie, que cette vie nous l'acceptons, eh bien ce pays promis, eh bien nous l'aurons. Nous vivrons certainement des difficultés, des épreuves, mais il est sûr que ce pays promis, nous l'aurons. Et tous ensemble, là, tous, au temps que nous sommes aujourd'hui, eh bien un jour, nous franchirons la frontière de cette terre promise, de cette terre merveilleuse, et nous serons avec nos frères qui sont peut-être dans une église à côté à Paris, avec ceux qui sont au Vietnam, puisqu'aujourd'hui on est un petit peu au Vietnam, et puis tous les peuples de la terre, nous serons tous réunis ensemble. Alors nous avons cette perspective merveilleuse qu'un jour, eh bien, nous serons tous ensemble avec la grâce de Dieu. Mais bon, nous traverserons peut-être des déserts, nous souffrirons peut-être un petit peu, mais ne perdons jamais de vue la finalité, cette promesse que Dieu nous a faite et qu'il nous donne aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas déborder. Voilà, que Dieu nous bénisse tous. Et je vais laisser la place à notre président. Nous avons un jeune président, donc tu peux...